Moi, je suis très impressionné de parler dans une assemblée si, si importante. Je pensais que la décroissance ne rassemblerait que 10-15 personnes, car l'habitude que j'ai prise depuis maintenant plus de 20 ans de parler de ce thème n'ameutait pas les foules du tout. Donc je m'aperçois que les temps changent, et comme j'interviendrai peut-être plusieurs fois dans ce colloque, je me propose de commencer tout doucement, simplement par vous dresser un petit portrait très rapide de qui était ce monsieur qu'on appelle Nicolas Georgescu Rugăn, un nom déjà pas facile à prononcer et encore moins à écrire pour la première fois. La preuve, c'est que en 1974, Jacques Attali, qui avait mentionné Georgescu Rugăn dans son livre L'anti-économique, pas une seule fois avait écrit son nom correctement. Bon, c'est pour vous dire que le nom de Georgescu Rugăn, c'est pas un nom qui a fait fortune dans le grand public. Le nom de Georgescu Rugăn, pourtant, est l'un des plus importants de la science économique du XXe siècle. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les ouvrages biographiques sur les grands économistes du XXe siècle. À l'heure actuelle, le nom de Georgescu Rugăn se trouve dans tous les dictionnaires biographiques des 100 plus grands économistes du XXe siècle. On les appelle souvent les éminents économistes, parce que ce sont des éminences. Vous savez que les économistes, c'est une profession relativement nouvelle dans l'histoire de l'humanité. La plupart des civilisations n'ont pas connu les économistes. Nous avons, nous, le privilège d'avoir parmi nous d'éminents économistes. Le problème est de savoir, est-ce qu'ils ont été des bons guides pour l'humanité. Georgescu Rugăn n'avait pas vocation de devenir un économiste. Georgescu Rugăn est un, au départ, il s'appelle tout simplement Georgescu, ce qui est un nom tout à fait banal en Roumanie, donc vous voyez, il n'était pas prédestiné à se faire un nom. Son père était un petit officier de l'armée roumaine qui un jour a volé de la nourriture pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il s'est fait prendre, et il a été exclu, dégradé de l'armée. Donc la carrière du petit Georgescu Rugăn, ça commence plutôt mal. Sa famille est pauvre, il va utiliser les lampadaires de la ville pour pouvoir lire le soir, sa mère faisait des ménages, il sait ce qu'est la pauvreté. Ça c'est un fond, je crois, assez important. Il vient d'un milieu extrêmement modeste, et en plus, il va devoir qu'à lui-même sa carrière de savant. C'est-à-dire, très très vite, il se passionne pour les mathématiques. Les mathématiques ont un grand avantage, elles ne coûtent pas cher. Vous n'avez pas besoin d'instruments comme la physique des particules, vous n'avez pas besoin de grands laboratoires. Vous travaillez avec un crayon, une feuille de papier et le génie de votre cerveau. Donc, le petit Georgescu Rugăn, il a compris que malgré le fait qu'il était pauvre, il était malgré tout un type qui est capable de raisonner, de calculer, de faire des mesures, d'imaginer des hypothèses. Bref, que son cerveau, à condition bien entendu qu'il soit nourri quand même, hein, c'est la moindre des choses, il faut d'abord vivre avant de penser. Donc, une fois qu'il avait résolu le problème alimentaire, il pouvait s'offrir le luxe de penser. Et je crois que Georgescu Rugăn est vraiment un génie, un peu à la manière de Pascal, qui fut un de ses modèles, un génie précoce, et très vite, ses instituteurs ont remarqué ses talents pour la mathématique, ou les mathématiques. Il va donc obtenir des bourses. Il va très rapidement entrer à la faculté des sciences de Bucarest, passer très rapidement licence, diplômes, etc. Et dans l'entre-deux-guerres, la capitale intellectuelle de l'Europe, c'était Paris. Et les Roumains adoraient Paris, et le rêve de ce petit Nicolas était d'aller à Paris. Il obtient une bourse de son gouvernement pour aller à Paris en 1926-27. Il va commencer à aller à Paris, rentrera de temps en temps dans son pays. Il a obtenu un poste de professeur de mathématiques dans des lycées. Il a fait 3 lycées en tant qu'enseignant de mathématiques. Et à Paris, il va se perfectionner dans une discipline relativement nouvelle à l'époque, qui est la statistique mathématique. L'école de Paris, de probabilité, était la meilleure qui existait au monde à l'époque avec les Russes, les Soviétiques. Et il est l'élève d'Émile Borel et d'autres grandes têtes pensantes de l'Institut Poincaré. Étant à l'Institut Poincaré, il avale également toute l'œuvre de Poincaré, ce qui n'est pas rien en termes de formation en mathématiques. Il suit également les cours de Albert Aftalion, qui enseignait à l'époque à la faculté de droit la théorie des cycles économiques, qui s'appuyait sur des statistiques et des probabilités et qui était tout à fait nouvelle à l'époque, qui intéressait peu de gens. Donc au départ, Georgescu Rueghen a le sentiment que sa carrière est toute tracée, il deviendra un mathématicien qui s'occupe de temps en temps d'appliquer les mathématiques aux réalités socio-économiques. En 1930, il obtient avec mention très bien, félicitations du jury, son doctorat S sciences de la faculté de la Sorbonne. Ensuite, il rentre dans son pays, il est immédiatement nommé professeur de statistique à l'université de Bucarest, mais très vite, il ressent une insatisfaction. Il veut encore aller plus loin dans ses études. À l'époque, en Angleterre, à Londres, il y avait un éminent statisticien qui développait la statistique mathématique qui s'appelait Carl Pearson. Carl Pearson est malheureusement davantage connu par ses idées eugénistes et socialistes un peu bizarres, et donc il a plutôt mauvaise presse aujourd'hui, mais c'est à lui que nous devons un certain nombre d'instruments mathématiques et surtout dans le domaine de la statistique, comme des corrélations, des choses comme ça. C'est à l'école de Carl Pearson que nous les devons. Il va 2 ans donc en Angleterre. Ce qui est assez difficile pour lui, parce qu'il ne sait pas un mot d'anglais à l'époque, et très très vite, il doit apprendre l'anglais. Après 2 ans auprès de Carl Pearson, qui est une bonne école, où il s'intéresse à la biologie, parce qu'à l'époque, la biologie devient mathématique à travers la biologie des populations, la génétique, il y a un engouement dans l'application des mathématiques aux sciences biologiques. Donc il apprend également toute la théorie de l'évolution. Il apprend ce qu'est le darwinisme. Il se passionne même pour cette idée que l'homme fait partie de l'évolution des espèces. Et puis il rentre dans son pays où il intègre le service de statistique nationale. Il monte la statistique nationale dans son pays. Il s'occupe donc des réalités démographiques, économiques, tout en enseignant un cours de statistiques mathématiques à l'université. À Londres, il avait eu la visite un jour d'un Américain qui venait de la Rockefeller Foundation et qui écrémait l'Europe en essayant de chercher les têtes pensantes qu'on pourrait amener aux États-Unis. Et il avait rempli des papiers comme quoi il était d'accord d'aller 1 an ou 2 se perfectionner aux États-Unis. Il oublie cette histoire de cet Américain. Et un jour, à Bucarest, il reçoit une invitation tout à fait formelle pour venir aux États-Unis, à Harvard, faire de la statistique. Il part avec sa femme, entre parenthèses, il a épousé une mathématicienne, donc c'est pour vraiment vous dire qu'il est à fond dans les mathématiques. Et elle était prof de maths comme lui, ils n'ont jamais eu d'enfants, donc ils n'ont fait que des mathématiques. Et il va à Harvard donc en 1934-35, et là il ne s'entend pas du tout avec le prof de statistique. Il faut dire que Georgescu Rueghen est conscient de son génie, il a un foutu caractère, et j'imagine très très bien que très rapidement il lui a dit « Monsieur, mais vous me prenez pour un imbécile, je ne suis pas venu ici uniquement pour vous écouter, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire, etc. » Enfin, on imagine très très bien le clash qu'il a pu avoir avec le professeur de statistique. Il est désespéré, il a envie de rentrer en Roumanie, il se dit, mais qu'est-ce que je fais aux États-Unis avec ces gratte-ciels qui sont beaucoup trop hauts, etc. Et un copain lui dit là-bas, mais il y a un prof d'économie qui cherche un mathématicien pour l'aider à développer l'économie mathématique. Ce professeur est très célèbre, il s'appelle Joseph Schumpeter. Ben, il dit pourquoi pas, en plus il vient de l'Europe de l'Est, donc il a des affinités avec toi. Le type qui lui dit ça, c'est un jeune, absolument inconnu à l'époque, qui s'appelle Paul Samuelson. Paul Samuelson qui va ensuite devenir un des papes de l'enseignement de la science économique. Un autre personnage qu'il rencontre à l'université d'Harvard en 1934-35, il s'appelle Leontief. Leontief, qui vient de Russie, qui est un émigré, qui a été en Chine, etc., et qui a intégré le département d'Harvard, et qui deviendra une des stars de l'économie moderne. Donc, Georgescu, tout d'un coup, va, de manière tout à fait, contingente, hasardeuse, bifurquer de la statistique pure à la science économique. Étant donné qu'il est très très fort en mathématiques, et qu'il regarde ce que font les économistes en mathématiques, pour lui, c'est vraiment des travaux d'enfant de cœur. En l'espace de quelques mois, il assimile toute l'économie mathématique de l'époque, et en 1935 déjà, il publie deux articles d'économie mathématique. Tout le monde est en extase, voilà le Rimbaud de la science économique. Il est tout jeune, et déjà, il brille par... Mais il est bien entendu dans le cadre intellectuel de cette économie à l'époque qu'on appelle l'économie néoclassique. Et Georgescu sera un économiste néoclassique pendant plusieurs années. Alors, je vais très vite sur les péripéties. Il se trouve qu'avec Schumpeter, il s'entendait très bien, mais lorsque, en début 1936, il veut rentrer en vacances en Roumanie, Schumpeter et sa femme, à l'aéroport, disent à Georgescu Regan, « Monsieur Georgescu, on aimerait bien vous garder à Harvard, vous allez travailler avec nous. » Et Georgescu, avec son insolence proverbiale, la Roumanie a bien plus besoin d'un économiste que le département d'économie d'Harvard. Ce qui est le bon sens même. Qui pour les gens d'Harvard était un peu une claque. T'as l'air de dire, enfin, on vous offre un poste à Harvard et vous préférez retourner dans votre pays de métèque, là, qui s'appelle la Roumanie. Donc, on n'a pas très bien compris le personnage. N'empêche que ses études avaient été financées par des bourses gouvernementales. Il se devait, comme beaucoup d'étudiants du tiers-monde, ensuite, d'utiliser ce qu'il avait appris pour aider son pays et non pas pour enrichir encore un peu plus l'Amérique et surtout le département d'Harvard qui n'en avait pas besoin. Donc vous voyez, ça brosse un petit peu un trait de caractère de Georgescu Regan, c'est sa loyauté vis-à-vis de son peuple, son honnêteté intellectuelle, et puis son caractère. C'est-à-dire, personne ne peut vraiment lui rabattre son caquet s'il a envie de dire ce qu'il pense. Et ça, j'en ai été témoin plus d'une fois. Il rentre dans son pays qui, malheureusement, comme vous le savez, rentre dans des turpitudes politico-historiques épouvantables. Il y a le fascisme, la garde de fer, les nazis roumains. Les choses ne sont pas faciles. Il va être démis de ses fonctions plusieurs fois. Il y a au moins 7 régimes politiques qui se succèdent, dont plusieurs dictatures. Georgescu est un libéral, un démocrate, et il va rentrer dans une véritable résistance. Et à ce moment-là, il va prendre parti politiquement pour la résistance des agrariens, c'est-à-dire ceux qui sont contre ce capitalisme industriel, et il va défendre les paysans roumains qui sont 80% de la population à l'époque. Mais il y a un début d'industrialisation essentiellement fondé sur le pétrole. La Roumanie, dans l'entre-deux-guerres, est le troisième pays producteur de pétrole. Georgescu va s'intéresser à cette situation économique. Et quand la guerre arrive, eh bien, il s'aperçoit que les armées d'Hitler n'ont qu'une envie, c'est de venir en Roumanie pour pomper le pétrole. Car on a besoin de beaucoup de pétrole pour faire la guerre moderne. Ça se fait avec des chars d'assaut, des avions, des tanks, etc. Bon, Georgescu est très frappé par cette situation de dépendance de la Roumanie face à une ressource qui va s'épuiser. Donc, très tôt, il est conscient qu'il y a deux types d'économies radicalement différentes. L'économie agraire, qui vit des flux de la circulation de l'énergie dans la biosphère, même si on n'emploie pas le mot biosphère à l'époque. On emploie le mot la nature, tout simplement. On n'emploie surtout pas ce mot horrible d'environnement. On ne parle pas d'environnement à l'époque, c'est la nature. Et puis, il y a l'économie industrielle. L'économie de la nature, elle a des contraintes. Les animaux sont liés à des cycles de reproduction, les plantes aussi. Vous ne pouvez pas faire du travail à la chaîne, en ligne, et en vous moquant de la météo. Alors que le système de fabrique inventé en Angleterre, à cette époque qu'on a précisément appelée la révolution industrielle, invente un type d'organisation qui utilise non seulement la machine, mais qui utilise un type d'organisation du travail, de division du travail, où on se moque éperdument de la réalité biologique des gens. Le coût humain de la révolution industrielle a été horrible. Bon, donc Georgescu a analysé à la fois l'économie agraire et l'économie industrielle. Mais il est encore enfermé dans son cadre économique néoclassique, qu'il va appeler finalement standard, parce qu'il va comprendre aussi que les marxistes ont accepté ce cadre-là. Ils n'en acceptent pas les conséquences politiques, et ils donnent un autre cadre politique, mais c'est la même économie, finalement, de Ricardo, de Malthus, d'Adam Smith, avec quelques aménagements. Et notamment, c'est une science économique qui ne fait pas la distinction entre le processus agraire et le processus industriel, et qui, au contraire, bâtit toute sa conception du circuit économique sur une métaphore. Et là, il faut bien que je dise deux mots sur l'histoire de la pensée économique, c'est-à-dire la science économique est née à un moment où on pensait, dans les milieux scientifiques, qu'il n'y avait qu'un seul système du monde, le système newtonien. C'est-à-dire que le monde était fondamentalement mécaniste. Autrement dit, qu'on pouvait éliminer ce qui, pour nous, dans l'existence, est le plus contraignant, à savoir l'irréversibilité du temps. À savoir que notre billet pour prendre le train de la vie, c'est un billet à sens unique. On ne revient pas, jamais. On va de là à là, de la naissance à la mort, et pas le contraire. Or, toute la mécanique classique est basée sur l'idée qu'on peut inverser la variable t. Moins t, les équations ont les mêmes résultats. Les planètes tourneraient dans l'autre sens, la mécanique céleste a les mêmes équations. Or, toute la science économique moderne est fondée sur l'idée que le circuit économique, bon, on le fait tourner dans ce sens, mais il tournerait dans l'autre sens, ce serait pareil. Pourquoi ? Parce qu'il y a finalement deux variables essentielles. Il y a les producteurs et il y a les consommateurs. Mais les consommateurs sont aussi des producteurs, les producteurs sont aussi des consommateurs. Ce qu'il faut, c'est que le système tourne le plus vite possible. Parce que chaque fois que ça tourne, eh bien, le capitalisme extrait une plus-value, un impôt, l'État extrait un impôt, le capitaliste extrait une rente, etc. Et sans avoir besoin de travailler physiquement, ceux qui ont de l'argent font travailler l'argent. Et les taux d'intérêt sont là pour simplement vous en mettre plein les poches. Il suffit de donner un chiffre aujourd'hui. La rente pétrolière mondiale, c'est de l'ordre 1 500 milliards de dollars. Ça, c'est l'argent que des gens se mettent dans les poches simplement parce qu'on extrait du pétrole, on le raffine, on le transporte, etc. Et c'est simplement la rente. Donc, c'est pour vous dire l'énormité de cette industrie pétrolière. Georgescu Regen va traverser la période de la Deuxième Guerre mondiale dans cette Roumanie qui a fait le mauvais choix, c'est-à-dire le choix du fascisme, le choix de Hitler. Ils sont défaits, l'armée rouge envahit la Roumanie, avec la bénédiction d'ailleurs des Occidentaux, en vertu des accords de Yalta, de Potsdam, etc. Et Georgescu voit bien que sa situation devient extrêmement difficile. Le roi Michel, comme vous le savez, va démissionner à la dernière minute. Il est, Il est arrêté, il va s'enfuir en Suisse, au bord du lac de Genève, et ça se passe au début 48. Et là, Georgescu Rueghen, un soir, a failli se faire arrêter par la police, on pourrait mal les appeler les bolcheviks, pratiquement, et il est menacé quasiment de mort. Heureusement, il avait un gros chien loup qui met en fuite ce soir-là les quelques policiers qui veulent l'arrêter. Il a toujours voué une admiration sans borne pour les gros chiens loups qui protègent certaines personnes. Et il dit à sa femme, c'est la dernière heure, c'est la dernière heure, on doit partir. Il s'enfuit clandestinement, car ceux qui s'enfuyaient à l'époque étaient des condamnés à mort. Donc il s'enfuit clandestinement via la mer, qui est là derrière, j'ai oublié son nom, la mer Noire, un bateau qui va à Istanbul. Istanbul est entre les mains de l'armée américaine, il se présente aux autorités américaines, et les Américains disent, oui, vous faites partie des savants qu'on aimerait bien avoir, nous, donc on va s'occuper de votre traversée, vous allez aux États-Unis, vous faites partie des têtes pensantes précieuses pour l'avenir. Il est accueilli à Harvard, de nouveau par les gens qui le connaissent, mais pour des raisons bureaucratiques, administratives, il n'y a pas de poste de professeur, il a 42 ans déjà à l'époque. Et puis arrive une lettre d'une université qu'il ne connaissait pas, Vanderbilt University. Donc, j'ai jamais entendu parler de Vanderbilt, sauf que c'est à Nashville, une ville où on fait des disques, etc., et qui est assez célèbre. Et il va accepter ce poste. Et je crois que ça a été un bien pour lui, car s'il était resté à Harvard, il ne serait pas devenu un dissident, tellement la pression aurait été forte. Le fait qu'il est en exil doublement, il est en exil aux États-Unis et il est en exil dans une université finalement un peu provinciale où il a beaucoup de temps, je dirais à perdre, mais comme il n'aime pas perdre son temps, il fait des études et il réfléchit. Et notamment, il lit toute la littérature scientifique. Qu'est-ce qui se passe dans les années fin 40, début 50 aux États-Unis? Il y a une révolution scientifique. On voit le monde en grand, on a fait la guerre mondiale, on commence à voir la planète. Les politiciens et les militaires voient le monde, et plus seulement une partie de l'Occident. Bon, il y a une sorte d'impérialisme culturel là, qui doit beaucoup à cette science. Il y a les tout débuts, les prémices de la biologie moléculaire, la cybernétique, la théorie mathématique de l'information. La théorie mathématique d'information, ça le passionne, c'est une théorie des probabilités, il est très fort là-dedans, il va y trouver des défauts, il va critiquer, enfin bref, il va rentrer dans ce milieu scientifique où il y a à peine quelques économistes qui s'aventurent, et il va commencer à repenser les fondements même épistémologiques, je suis bien obligé de sortir ce gros mot, hein, parce qu'on va devoir en reparler de l'épistémologie, c'est-à-dire quelle est la connaissance que nous utilisons lorsque nous voulons décrire ce que nous appelons l'activité économique. Qu'est-ce que c'est que l'activité économique? Georgescu Rueghen, qui est un mathématicien, donc il a l'habitude d'abstraire de la réalité des éléments simplificateurs mais pertinents, il va développer des modèles extrêmement abstraits et il va surtout se rendre compte que notre science économique ne voit qu'une petite partie du processus économique, oubliant complètement, mais ça on l'avait déjà dit, des aspects socio-culturels, mais ça il va le laisser en partie à d'autres, il va s'en occuper, mais il va s'intéresser à quelque chose qui a été laissé de côté absolument par tous les économistes, c'est le fait que l'économie, qui dégage de la valeur, mais la valeur c'est quelque chose de subjectif, d'abstrait, purement social, mais qui se greffe sur des échanges matériels. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants, nous devons nous nourrir, nous déplacer, nous abriter des intempéries, et cela suppose des constructions matérielles. Autrement dit, il va s'intéresser à la dimension matérielle des phénomènes économiques. Et en cela, il va développer une théorie révolutionnaire, parce qu'il va montrer qu'on ne peut plus penser la science économique comme un carrousel qui tourne, comme une mécanique céleste, mais davantage comme un système vivant qui a besoin d'instruments pour aménager ses relations avec le milieu naturel, car il n'y a pas d'être vivant sans un milieu naturel. La définition du vivant ou de la cellule en dehors de la nature, c'est une pure abstraction. Donc il va faire, si vous voulez, pour la science économique, ce que, à l'époque, des biologistes font pour l'écologie, c'est-à-dire de replacer le processus économique dans le prolongement du processus biologique auquel nous appartenons, et ce processus biologique, dans l'espace qui est représenté par cette belle photo, non celle du personnage en question, mais de la planète Terre. Autrement dit, et je vais m'arrêter là, et j'aurai l'occasion de revenir plus en détail, mais Georgescu est le premier économiste qui dit cette chose toute simple, toute banale: l'économie est un processus qui a lieu sur une planète qui s'appelle la Terre.